Hallo, was macht ihr denn? Das ist aber gerade gut. Was? Ich wollte, ich konnte empfehlen, dass da ein bisschen an der Tür war.
Was?
Ich wollte da mal.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Nous vous emmenons en voyage aujourd'hui dans les pays du monde arabe. Notre fil conducteur, un ingrédient, un aliment totem, porteur d'histoire, de culture, de savoir-faire. Un de ces fils tissés qui nous relient presque inconsciemment les uns aux autres et qui font dire « Ah, chez vous aussi ?» Ce voyage, nous l'avons imaginé un jour d'hiver, Karim Haïdar et moi, avec une envie, celle de raconter et de donner à goûter. Bonjour Karim.
Bonjour Clémence.
Karim Haïdar, vous êtes libanais, cuisinier, créateur de la boutique à manger Les Mots et le Ciel dans le 15e arrondissement de Paris. Alors il ne sera pas question d'un pays par sa cuisine aujourd'hui, mais bien d'un aliment comme note de fond des cultures. Il fallait choisir forcément quel ingrédient serait le premier pour ce premier voyage, parce qu'il y aura une série de voyages. Et cet ingrédient-là s'est un peu imposé de lui-même. Le premier, lui, chargé de symboles, de sacré, signe de partage, c'est le pain.
Tout simplement,
tout
oui,
simplement.
Le pain, bien sûr.
Et quand on dit pain, évidemment, on pense aussi céréales, Karim, car c'est bien cela, la céréale à l'origine de tout. Quand on a appris à cultiver et donc à faire pousser ces céréales, à les cuire, à s'en servir, à les transformer en farine et donc à en faire des pains. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des céréales qui sont un peu endémiques des pays du monde arabe ?
Peut-être en remontant davantage avant les céréales. Les céréales, finalement, on les retrouve dans une terre, dans un terroir. Et en fait, ce sont des humains qui arrivent sur une terre et qui trouvent différents produits. Et ils essayent d'en faire, et je vais remonter même avant le pain, ils essayent d'en faire quelque chose qui est nourrissant, qui est la base de leur vie, la base de ce qu'ils mangent. Ce produit sans lequel ils ne pourraient tout simplement pas survivre. Ce produit dans le monde arabe, ça s'appelle tout simplement, on l'appelle Aïch. Aïch, ça veut dire la vie. On l'appelle la vie, et cette vie, en fait, chez nous, dans le monde arabe, eh bien, ça dépend des régions, parce que le monde arabe s'étend, finalement, d'Asie jusqu'en Afrique et jusqu'à l'extrême ouest de l'Afrique. L'Asie, vous savez, c'est un pays de riz. Et ce riz, donc encore une fois, la première graine, rencontre d'un peuple avec le riz. Le riz, c'est ce qu'ils ont pris comme symbole de vie, on le sait pour l'Extrême-Orient. Mais dans nos régions, au début du monde arabe, à l'est, là où le soleil se lève, au levant, c'est le riz qui est le aïch. Ce n'est pas notre sujet, bien sûr. Mais si on continue un petit peu plus loin, on va arriver à des personnes qui ont trouvé des céréales avec lesquelles on peut faire du pain. Et bien sûr, la reine de ces céréales, c'est le blé. Donc on va trouver du blé dans différentes régions. Mais différentes sortes de blé qui vont faire en sorte qu'on ait plusieurs sortes de pain et plusieurs traditions de pain. Ces blés, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le blé dur, qui est un blé qui supporte très bien les chaleurs et donc qui va se retrouver dans les parties les plus chaudes du monde arabe. Et le blé tendre, que l'on connaît par exemple beaucoup plus en Europe également, qui va servir aussi et se retrouver dans d'autres régions. Ça, c'est très important parce que finalement, personne ne se pose véritablement la question, sauf à être un petit peu spécialiste. Le blé dur, c'est celui qui donne la semoule, donc celui qui donne cette semoule qu'on va utiliser à la fois dans les pays de l'Est du monde arabe, qu'on va utiliser au Moyen-Orient à proprement parler pour faire du boulgour, et la semoule qu'on va utiliser dans tout le Maghreb, notamment pour faire le couscous, et la semoule qu'on va utiliser également pour le pain. Donc il y a toute une histoire, le type de pain qu'on va faire, qui soit à base de semoule, donc de blé dur, ou à base de farine, la farine qu'on connaît ici, la farine toute blanche ou la farine complète, qui est à base de blé tendre. Et ce sont ces deux ingrédients différents qui vont faire l'essentiel des pains. Alors bien entendu, dans les pains, parfois, il y a d'autres graines, il y a de l'orge, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans les pains. Mais on est surtout sur une dualité, deux mondes, celui du blé dur, la semoule, celui du blé tendre, la farine.
Blé dur, blé tendre qui parfois se mélangent, c'est ce qu'on verra au fil de cette émission, puisque nous allons donc entamer ce voyage plutôt à l'est, comme vous l'avez dit, plutôt du côté du riz. On voudrait savoir justement quelle place a le pain en tant que tel dans les pays comme l'Arabie Saoudite ou dans le Golfe Persique.
Alors le pain est certes important, mais en fait il faut savoir que l'Arabie Saoudite d'abord est un très très grand pays. Et finalement se divise, même quand on parle de sa cuisine, se divise en trois grandes parties. L'une qui donne sur le golfe arabique et l'autre qui nous ramène vers la mer Rouge, donc vers les villes de Médine, de la Mecque. Dans un cas, on est sur l'influence du Moyen-Orient. Dans l'autre cas, véritablement, du golfe arabique. Et donc en face du golfe arabique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Iran, grande tradition de riz. Il y a l'Inde, grande tradition de riz. Donc suivant là où on est, le produit essentiel va être le riz ou le pain. Mais on considère généralement, et d'ailleurs le mot aïch qui est très intéressant, donc ce mot de vie,
aïch,
d'où l'importance des mots.
C'est vraiment la vie en arabe.
Voilà, ça veut dire la vie, le fait de vivre. Et je me demande parfois si ça ne veut pas dire la survie, donc le produit qui permet de vivre et de survivre. Et en fait, en Arabie Saoudite, le aïch, c'est le pain. Donc c'est dire que ce pain est extrêmement important, le pain qui va être fait dans la région, qui va être utilisé pour la consommation courante et qui est ce produit qui permet véritablement de manger tous les jours. Vous avez parlé de sacré tout à l'heure par rapport au pain. Le pain, bien entendu, est sacré. On va voir ça dans toutes les religions. On voit ça dans la religion chrétienne où le « donnez-nous notre pain quotidien » et on voit ça dans les autres religions où on considère, et notamment en islam, où il est haram, donc interdit par la religion, de jeter le pain. Car le pain est un produit sacré. Pourquoi il est sacré ? Parce qu'il est l'essence de la vie, c'est le produit principal, c'est le produit dont personne ne devrait être privé sur Terre.
Si on revient très pragmatiquement, quel type de pain on va trouver dans le Golfe ? Est-ce que ce sont des pains galettes ? Est-ce que... Parce qu'il y a plusieurs usages du pain, en fait. On va avoir du pain qui va permettre d'être un contenant, le pain qui va permettre d'être à côté d'aliments. Quelle place il a, ce pain ?
Ben, il y aura tout simplement les deux pains qui vont se faire. En réalité, le pain galette qui va servir à saisir les aliments et le pain qui est plus un pain d'accompagnement se font de manière différente. Alors, on se retrouve beaucoup dans les endroits les moins pourvus en four à pain, en capacité de four, donc les endroits qui sont d'origine plutôt bédouine, où les gens se déplaçaient tout le temps, on se retrouve surtout avec des pains crêpes. Pourquoi ? Parce que ces pains crêpes se font de manière extrêmement simple. Ils ont simplement besoin de l'équivalent d'une poêle. Et c'est cette poêle qui va permettre de faire le pain. Il suffit d'avoir quelque chose qu'on peut chauffer, et on met dessus, comme sur une crêpière, la pâte à pain, elle cuit, et ça devient du pain. Donc on va retrouver plus ces pains-là à l'origine et petit à petit, avec l'évolution, avec la sédentarisation, on se retrouve à construire des fours et là on arrive à faire des pains avec une pâte qui est un petit peu plus levée, plus travaillée, qui va pouvoir faire un pain véritablement moelleux, qui est un pain qu'on va manger un peu comme on mangerait une brioche.
Vous parlez de fours, est-ce qu'il y a un type de four qui se retrouve dans la plupart des pays du monde arabe ?
En fait, les fours, oui. Alors d'un côté, il y a le four, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on disait, c'est-à-dire cette crêpière. Cette crêpière va prendre plein de formes. Elle va de l'absence de crêpière. C'est ce qu'on fait dans le désert quand on va cuire un pain sous la cendre directement. Et puis, ça peut être tout simplement cette plaque, donc cette poêle, qui est une poêle tout simplement normale, qui ressemble à une poêle normale, sur laquelle on va cuire le pain. Ou alors, ça va être aussi cette poêle qu'on va retourner, qui est comme un wok, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on connaît plutôt, parce que toutes les poêles en arabe s'appellent saj, qu'elles soient dans le sens où on cuisine traditionnellement. Mais aujourd'hui, on connaît le saj comme cet équivalent de poêle retournée sur laquelle on cuit le pain. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le four. Alors le four à pain, on va dire qu'il y en a, pour moi, essentiellement trois sortes. On va écarter d'abord le four moderne, mais qui existe. Je veux dire, le monde arabe a évolué. Comme tous les mondes, il y a eu des traditions. Vous savez, la baguette en France, elle est pas née il y a 500 ans. Donc en fait, tous les pains ont évolué. Donc on a des fours, tout simplement, qui sont comme les fours qu'on a aujourd'hui partout, dans lesquels on peut faire certains pains, et dans lesquels, en sautant d'un côté, de l'autre côté complètement du monde arabe, souvent dans le Maghreb, on va faire des pains aujourd'hui dans des fours vraiment classiques, parce que ce type de pain permet l'utilisation des fours modernes d'aujourd'hui. Les deux autres fours à pain sont beaucoup plus traditionnels. Peut-être sans doute un des premiers fours, c'est le tandoor indien, qui s'appelle le tannour dans le monde arabe, qui s'appelle le taboun par exemple en Palestine. Et ce four-là, c'est quoi? C'est une espèce de puits, généralement en terre cuite ou en pierre, quoi qu'il en soit. Et on va le chauffer complètement avec une flamme, donc avec du bois qui a brûlé.
À la base, en fait, de ce puits, on peut mettre un feu.
Voilà. Et cette pierre devient extrêmement chaude. Et le moyen de cuire dessus, donc vous imaginez un petit puits, c'est de prendre la pâte à pain et de la coller contre une paroi. Donc, bien sûr, elle se colle contre la paroi puisque la pâte est humide. Elle se colle contre la paroi et elle cuit petit à petit. Et ensuite, il suffit de la détacher et vous avez un pain qui est fait. En réalité, ce four, si vous y pensez, c'est un petit peu comme la poêle. C'est un petit peu comme le sage, mais sauf que c'est une poêle où on colle le pain de manière verticale et non pas de manière horizontale sur la paroi. Après, vous avez le four qu'on y trouve énormément au Moyen-Orient et qu'on connaît bien, qui est un four qui va ressembler en réalité à un four à pizza. C'est un four où on va allumer du bois et ce bois va chauffer la paroi du four qui est arrondie vers le dessus. On dit souvent que la flamme doit passer dessus. Et c'est fondamental pour faire certains pains. C'est-à-dire le pain classique du monde arabe, on y reviendra sûrement, celui qu'on appelle khibz tout simplement, on l'appelle pain dans le monde arabe. Ce pain-là ne se ferait pas s'il n'y avait pas le feu par-dessus. On dit quand on est boulanger que c'est le feu de la paroi supérieure du four qui aspire le pain pour le faire gonfler et faire de cette manière avoir ce pain qui est en réalité en deux couches, puisqu'on ouvre les deux couches et puis on parlera peut-être de la manière dont on mange avec ces pains-là. Et là, on se retrouve donc, oui, avec les trois possibilités générales pour faire des pains. Mais bien sûr, le tannour ou tandoor quand il est en Inde ou taboun, ce puits, lui, peut se décliner de différentes manières. Je vous ai parlé de la terre cuite, mais ça peut être d'autres types de pierres. L'idée restant la même. L'idée restant qu'on chauffe des parois à fond pour coller dessus une galette qui va devenir, en fait, du pain.
Dans le Golfe, en Arabie Saoudite, on va trouver des galettes plutôt?
Alors, en Arabie Saoudite, on est plus sur des galettes. Et là où c'est intéressant, je veux dire, le pain qui a peut-être son véritable nom dans la région, c'est le pain yéménite. Le pain yéménite, lui, alors le Yémen, pareil, donc on est dans une région, en fait, malheureusement dévastée par la guerre, avec une énorme famine, puisque là aussi, on peut peut-être le dire, l'essentiel, c'est le pain pour faire vivre. Et au Yémen, les gens, oui, tout le monde est privé même de pain, même de la base aujourd'hui. Et alors qu'il y a une richesse culturelle incroyable au Yémen, aujourd'hui tout ça a été bombardé, rasé, et on en vient à imaginer ce pays comme un grand désert où il n'y a rien, mais ce n'est pas vrai. C'était un pays extrêmement riche en culture, en tradition. Toutefois, pour le pain, ils avaient essentiellement comme pain signature. Mais alors attention, parce que je vous ai dit qu'il y a ce pain arabe général, le khibz. Khibz veut dire pain, qui est celui qu'on connaît sous le nom en France de pita, souvent, donc qui ressemble à la pita. Ce pain se retrouve partout, on le fait partout, dans ces fours qui ressemblent au four à pizza dont nous avons parlé. Mais il y a des spécificités régionales. Et parmi ces spécificités, au Yémen, il y a une galette qui est assez étonnante, parce que c'est une galette qui est fermentée. Donc en fait, alors même qu'on fait une crêpe, cette crêpe a dedans, en fait, de la levure, de manière à lui permettre de lever, de manière à être justement plus moelleuse. Donc vous n'êtes pas dans une crêpe traditionnelle, ni dans cette galette fine qu'on va retrouver au Moyen-Orient. On est vraiment dans une crêpe onctueuse, un petit peu comme un pancake.
Et on n'oublie pas qu'on n'est pas loin de la Somalie, on n'est pas loin non plus de l'Éthiopie. On a cette tradition de crêpe fermentée d'injera. Elle ressemble un petit peu à l'injera, ce pain et cette crêpe dont vous parlez au Yémen.
Tout à fait, mais d'ailleurs, les différences entre les pays et les frontières entre les pays ne sont pas des frontières de nourriture. La nourriture, elle traverse les frontières, puisqu'encore une fois, je le rappelle, ce qu'on a dit au début est très important. Et c'est très important pour moi aussi, c'est que véritablement, la cuisine est toujours la rencontre d'un peuple et d'un terroir. Et le terroir ne s'arrête pas aux frontières humaines.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
أمي وقهوتي أم ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في طفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي أمي
My Mother, ma mère de Marcel Ralifié. Bonjour, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes en voyage aujourd'hui avec le cuisinier libanais Karim Haïdar, chef de la boutique à manger Les Mots et le Ciel. En voyage donc dans les cuisines du monde arabe avec pour boussole les mille et un contes du pain d'est en ouest, de galettes de blé tendre, garnies, pain de blé et pain de vie, surtout. On a quitté juste avant ma mère de Marcel Ralifé, le Yémen, où nous avons découvert le...
C'est le moulawah, mais comme souvent en arabe, le mot a un sens. Donc moulawah, ça veut dire en fait qu'il a été cuit, comme on l'a dit, c'est-à-dire sur l'équivalent d'une plaque, d'une crêpière, et que de ce fait, parce qu'il est un peu fermenté, il a changé de couleur, il a plusieurs couleurs, et son nom signifie ces plusieurs couleurs.
D'accord.
Comme des mèches pour les cheveux.
Je vous propose, Karim, maintenant d'aller un peu plus vers le nord, peut-être en Irak, à la découverte d'un pain qui s'appelle le samoun.
Oui,
alors. Mais qui est un peu particulier. Là, on n'est pas vraiment ni dans la galette, ni dans le pain Hobbs, comme on va découvrir un peu plus tard, même si Hobbs veut dire pain.
En fait, oui. Alors, l'Irak, c'est toujours un petit peu particulier, parce que c'est un pays pareil, très, très vaste. Et d'un côté, c'est la frontière syrienne. De l'autre côté, on est dans le Golfe. Et il y a une énorme richesse dedans. Et je pense, personnellement, je n'ai jamais été en Irak, malheureusement. Mais je pense qu'il y a une multitude de pains, en fait la majeure partie des pains, qui sont des pains du monde arabe, qui se retrouvent en Irak et qui sont utilisés. C'est un pays à grande richesse et de la culture de blé, d'où le pain. Et en fait, on a un pain qui est à base de farine de froment, qui est le samoun, qui est un pain qui a une forme un peu particulière, puisqu'il a la forme d'une embarcation, d'une petite barque.
Oui.
On pourrait se demander si ça a un rapport avec les fleuves, avec le Tigre et l'Euphrate, et qu'on navigue avec le pain, je ne sais pas. Mais simplement, oui, c'est un pain moelleux, tendre et moelleux, encore une fois. C'est un pain levé, c'est un pain cuit dans un four. Mais les autres pains existent dans la région. C'est en allant petit à petit, on en parlait tout à l'heure, vers l'ouest, en se rapprochant de la Syrie, qu'on se retrouve avec les mêmes pins que toute la région du Moyen-Orient. Et toute cette région, finalement, a exactement les mêmes pins, avec des petites différences régionales, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas liées véritablement aux frontières. Donc, on va dire que l'ouest de l'Irak, la Syrie, le Liban, vont avoir quand même des pins extrêmement similaires. Le roi de ce pin, qu'on appelle d'ailleurs pin arabe le plus souvent, en opposition à tous les autres pins dans toute la région, c'est le khebz, c'est ce qu'on appelle la pita, puisqu'il ressemble à la pita grecque. Alors je dis il ressemble parce qu'il n'est pas exactement pareil. La pita grecque est plutôt épaisse, alors que le pin dit arabe, que nous appelons arabe, est un pin très fin. La particularité qui fait qu'il y a cette ressemblance avec la pita, c'est le fait que ce pin est un pin qui est d'abord rond, ensuite il est formé de deux couches qui peuvent se séparer, et on peut manger avec comme on peut le farcir. En l'ouvrant un petit peu, on se retrouve à le farcir. Ce pain a plusieurs tailles. On ne le voit pas souvent en Europe dans sa taille la plus importante, qui est une grande, grande taille, qui est en fait le pain qu'on achète à la maison, en Syrie, au Liban. On a un grand sachet de pain et on sort ses pains, on mange avec.
Quand vous dites une grande, grande taille, qu'on a
une grande taille, il fait quand même, je pense, 55-60 cm de diamètre et non pas les petits pains qu'on voit tous les jours. Mais les petits existent aussi. Les petits, ils servent plus normalement pour faire des petits sandwichs. Le pain, ensuite, on va, et c'est très important de le savoir, moi je trouve que la manière de manger avec le pain est extraordinaire. Dans nos pays, dans ces régions-là, on mange avec le pain. De ce fait, on mange tout avec le pain. Parce que le pain, en réalité, n'est pas un aliment qu'on mange à part, c'est un instrument qu'on mange. C'est en réalité comme si on mangeait sa fourchette après avoir mangé ce qu'il y a dans la fourchette, ou sa cuillère après avoir mangé ce qu'il y a dedans. Et il faut d'abord séparer les deux couches de pain. Je le dis souvent à mes clients européens qui essayent de manger avec les deux couches en même temps collées, et ça va pas du tout parce que c'est pas comme ça qu'on mange, et pour le coup on mange trop de pain. Et ensuite de faire avec, simplement de le transformer en petite pince ou cuillère pour pincer quelque chose, le prendre et le manger. Et ce pain est fin naturellement, parce que vous imaginez que si ce pain était gros comme la pita et qu'on mangeait comme ça, on aurait plus faim au bout de trois bouchées. Alors que là c'est un pain qui est très très fin, qui est fait de cette manière-là, qui est fait dans le four, et c'est le même pain qui va se retrouver dans toute cette région. Donc on est à l'ouest de l'Irak, on est dans toute la Syrie, on est au Liban, on est en Jordanie, et ce pain s'appelle le pain arabe. Alors, bien sûr, chacun l'appelle de son nom. Les Libanais souvent disent du pain libanais, et les Syriens disent du pain syrien. Mais a priori, c'est le même pain, et il s'appelle tout simplement khebz. Il n'a pas d'autre nom chez nous. Il s'appelle khebz, ce qui signifie pain. C'est comme, on va dire, le pain en France, quand vous dites « je voudrais un pain », qui a le nom finalement générique et le nom de cet élément particulier, cette espèce de grosse baguette qui fait plus que 250 grammes, qu'on appelle un pain, c'est la même chose. En arabe, khebz, c'est le pain.
Et la manouchée, alors ?
On croit souvent que c'est un pain de ce type, avec du za'atar dessus, le za'atar, cet origan séché, avec du sumac, etc. Mais c'est pas du tout ça. La manouchée, c'est plein de choses. D'abord, c'est une pâte très particulière. C'est une pâte dans laquelle il y a de l'huile d'olive. Vous imaginez bien que dans le pain, il n'y a pas d'huile d'olive.
Donc, dans la confection de la pâte, on va mettre de l'huile d'olive.
Et beaucoup d'huile d'olive.
Beaucoup d'huile d'olive.
On parle, quand on veut faire une très bonne manouchée, on va mettre, par exemple, presque 200 grammes d'huile d'olive par kilo de farine, parfois 300. Là, vous avez une vraie pâte de manouché. Ça, c'est le premier point. Alors, ça cuit effectivement dans le même four que le khebz, qui est ce four à pizza dont la flamme lèche le haut. Et cette manouché, en fait, pourquoi elle s'appelle manouché ? Là encore, les mots ont un sens très important. Et comme le mot laouah tout à l'heure du Yémen, manouché, ça vient du verbe na'asha, le verbe arabe na'asha, qui veut dire a fait comme des petits coups de sculpture dans quelque chose. Souvent, on dit ça quand on va sculpter des petites incisions et des choses. Et là, ces incisions, comment est-ce qu'on les fait et pourquoi on les fait dans la manouchée ? Tout simplement en appuyant les doigts dessus avant de mettre le za'atar. Et pourquoi on fait ça ? Parce que si on ne faisait pas ça, dans le four en question, le pain, il gonflerait et vous auriez deux couches, ce qui est le contraire même d'une manouchée qui doit être comme une pizza avec une couche unique. Et ce pain va rester, alors qu'il a cuit, à une température très très élevée. Ici à Paris, moi je le cuis à 340-350 degrés, mais dans certains fours au Liban, on le cuit beaucoup plus vite à des fours qui atteignent les 500 degrés et plus. Donc même si on le cuit comme ça, il va rester très tendre grâce à l'huile d'olive notamment. Et là on le prend, que ce soit le matin en arrivant au Fırın, en fait la boulangerie chez nous, s'appelle Fırın du nom du four. Parce qu'on voit le four, on rentre, on voit un grand four avec le feu et on vous sort la menhouche et on la roule tout simplement. Et on mord dedans. Et c'est un petit déjeuner divin si le zaatar est bon. Et si le boulanger est excellent, c'est encore mieux. Et il arrive aussi qu'on en mange de nos jours, même à midi, même l'après-midi, même tout le temps. Alors on ne met pas que du zaatar dessus, la menhouche. Il arrive de mettre dessus du fromage notamment. Mais on peut aussi mettre un peu de viande dessus. Et là, on est dans quelque chose qui est très utilisé dans les régions. C'est le lahm bajin, qui est le lahm ajoun des Arméniens et des Turcs. Mais qu'on utilise, nous, également, de manière très, très régulière.
Pour qui n'a jamais vu, on a vraiment l'impression d'avoir une pizza très, très fine, recouverte de tomates, de viande hachée, d'herbes également.
Voilà, on la recouvre finalement de ce qu'on veut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sandwich. Ça se roule et ça se mange directement. Une véritable menhouche se roule et se mange. Ce qui amène quand même, tant qu'on y est, à parler d'un autre produit qui n'est pas une menhouche, puisqu'on n'appuie pas avec les doigts dessus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sage. Alors le sage, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est la poêle en arabe. Le mot, toujours le mot, à l'origine de tout, il y a les mots. Il y a, comme on a dit, les humains, le terroir, et il y a les mots qui racontent, qui expliquent d'où ça vient et comment c'est arrivé là. Et le sage, c'était là où on n'avait pas de four à pain. On n'avait pas ces fours à pain. Et où est-ce qu'on se retrouvait à pas avoir ces fours à pain? Soit chez soi, à la maison, dans une maison un peu isolée, où on n'avait pas construit de four à pain.
Soit
souvent dans les champs. Pendant les vendanges, dans les champs, en travaillant dans les champs, les gens voulaient manger. Vous savez, il faut imaginer cette époque autre où toute la famille partait cultiver son champ. Les adultes, les enfants, tout le monde. Et on passait la journée au champ. Et on revenait à la maison le soir. Il fallait manger. On récoltait des choses et une partie de ce qu'on récoltait, parfois on travaillait dans les champs avant de récolter, donc on avait ramené de la maison, quelques légumes, ça dépendait des saisons, un peu de viande éventuellement, et on cuisinait, donc on ramenait une grande poêle avec soi qui s'appelle donc un sage. On ramenait cette grande poêle, on la mettait sur le feu, on allumait un feu, il y avait quelqu'un qui cuisinait un vrai repas pendant que les autres travaillaient dans les champs, donc qui passait toute sa matinée à cuisiner. Et quand tout le monde était un peu fatigué, on s'asseyait autour du feu, on servait les gens, mais on n'avait pas de pain. Alors on retournait cette poêle, qui avait la forme un peu d'un wok, et on avait préparé une pâte. Et en fait, on va prendre un petit bout de pâte, et on va élargir cette pâte. Alors on a vu ça avec, tout le monde connaît ça un peu, avec certains pizzaiolo qui font du spectacle. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'élargir la pâte, jusqu'à ce que ça devienne de la dentelle. On voit à travers. Et on la pose sur ce sage, ce dôme. Donc elle peut faire 80 cm, 1 mètre de diamètre, peu importe. Elle peut être très très grande. On la pose dessus et on la retire instantanément. Parce qu'elle est tellement fine que sinon elle va trop cuire. Elle cuit instantanément, on la sort. Pourquoi on avait besoin qu'elle cuise instantanément? Parce que vous vous souvenez, dans les gamelles de chacun, des agriculteurs, qu'est-ce qu'il y avait? Des cultivateurs, il y avait leur plat. Ils voulaient avoir le pain tout de suite, donc il fallait que le pain cuise rapidement. Donc on sortait ce plat, et comme il est très long, on le partageait en morceaux, et puis ensuite on en recuisait un autre très rapidement. Et la force d'un sage, c'est quoi? De faire cette pâte parfaite qui fait que ça reste tendre alors que c'est aussi fin. Qu'est-ce que vous imaginez un pain cuit sur une poêle qui soit tendre alors que c'est de la finesse de la dentelle et qu'on voit à travers. Et je rigole pas en disant on voit à travers. C'est le principe de voir à travers ce pain-là. Alors ce pain-là aujourd'hui, celui que vous voyez, dévoyé partout sur des espèces de dômes où on va cuire en fait une galette qui fait 1 cm d'épaisseur, la farcir de choses, etc. Ça n'a plus de rapport avec la tradition du sage. Même si, en fait, les citadins dans ces régions-là ont découvert un jour, d'un coup, ils ont découvert le sage en allant à la campagne, en voyant ces choses-là, ont goûté. Et les habitants, bien sûr, comme ils faisaient d'ailleurs même pour eux, de temps en temps, ils se disaient « Tiens, je vais rajouter un peu de zaatar dessus. tiens, je vais rajouter un peu, pourquoi pas, même de chocolat, quelque chose de sucré. Et tiens, mange, c'est très bon. Et les citadins ayant aimé ça, ont ramené ce produit chez eux, ont oublié l'origine du produit. C'est pas grave, c'est très bien, parce que tant que le produit est bon. Et ils se sont mis à faire du sage et à le manger, un peu comme une street food. Et même quand on s'est mis à le faire aux atal, parce que les gens aiment bien, c'est beaucoup plus léger, on est plus dans l'air du temps, on n'a pas envie de manger une manouche qui pèse 300 grammes, on préfère manger un truc de sage qui va me peser 50 grammes ou 60 grammes. Donc ils se sont mis à manger ça, en appelant ça manouche. Alors bien sûr, le nom est rentré, mais c'est un peu dommage parce qu'on a oublié pourquoi ça s'appelait une manouche et pourquoi l'autre s'appelait un sage. Voilà.
Donc
là, on est dans ces pains-là et dans cette évolution de pain. Donc on est en Syrie, on a dit, on est au Liban, et là on va petit à petit vers plus au sud, en Jordanie et en Palestine. Alors pareil, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal avec les pays, parce que les pays ne racontent rien, les frontières des pays sont artificielles, surtout dans cette région. Et donc, bien sûr, on va retrouver les mêmes pains partout. Mais il y a quand même une petite spécificité en Palestine, justement, où le marou, qui est ce pain du sage, pardon, parce qu'on n'a pas utilisé son nom, marou, c'est le pain qu'on fait sur le sage, qui peut être très très grand, qu'ensuite, d'ailleurs, quand on le fait très très grand, on le plie carrément en plusieurs fois, plusieurs replis.
C'est vraiment comme un tissu, en réalité.
Exactement.
Qu'on peut
et il reste
comme...
tendre, tant que vous l'enveloppez après, il reste tendre. Donc ce marou, pourquoi marou? Ça veut dire qu'il a été aplati de manière à devenir très fin, qui a été affiné, c'est ça que ça veut dire en arabe, marou, qui vient de raqiq, raqqa, qui est un verbe. En fait, tous les mots arabes ont à l'origine trois lettres. Et après, ça s'agrandit. Donc, en fait, on peut comprendre le mot par rapport à la racine. Et marou, ça veut dire tout simplement aplani, affiné. Donc, ce pain marou, quand on va en Palestine, eh ben, ils le font. Ils le font de manière un petit peu plus petite. Et ils l'appellent le shirak. Donc, il a un autre nom. Il s'appelle shirak. Et sans doute lié au côté un peu dentelle. Et pareil, c'est la même tradition. C'est la même histoire, c'est la même manière de faire. Mais chez eux, en Palestine, il y a cette chose extraordinaire puisque ce pain va servir avec un autre pain qui est celui qu'ils vont appeler le taboun. Et le taboun, en réalité, c'est la même chose que le tannour dont nous avons déjà parlé, vont servir à des recettes traditionnelles palestiniennes extrêmement importantes. Il y en a une dont j'aimerais parler parce qu'elle est très liée à ce pain et au besoin de faire ce pain, c'est le msakhan. Alors le msakhan, c'est un moment, en fait c'est peut-être là qu'on aurait dû parler du marou, parce qu'on va un peu se répéter, et du sage en général, c'est au moment de la récolte des olives. Vous savez, la Palestine, quand les Israéliens coupent pas tous les arbres, tous les oliviers, eh bien c'est quand même un pays qui a les plus beaux oliviers du monde, et sans doute la plus belle qualité d'huile d'olive. Donc quand on récolte les olives en Palestine, c'est un moment sacré, c'est un moment fondamental, et tout le monde va à la récolte des olives. Là, on récolte, on presse les olives, et avec la première presse des olives, on va cuire des oignons. On va cuire des oignons longuement dans l'huile d'olive. On va y rajouter ce sumac, épice magnifique, un petit peu rouge, avec une pointe d'acidité, un goût, une saveur merveilleuse. Et on va cuire un poulet et on va poser des couches de ce pain fin, donc de ce shirak. On va poser des couches de pain, rajouter dessus de l'oignon, rajouter du pain et de l'oignon, arroser d'huile d'olive, mettre le poulet et enfin jeter dessus à la volée des quantités de pignons de pain, mais de ces très bons pignons de pain de Méditerranée qu'on n'arrive plus trop à trouver ces temps-ci. Et donc là, on est sur un plat magique de la région.
فيكم شينا غيبة بلا والي عندي غير ربي وانتينا نبكي منو ما يحلالي نطلب من ربي لاقينا
Mouima de Netta Al-Kayam sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes donc en voyage de boucher en plat de pain dans les pays du monde arabe, un voyage commencé à l'est et nous progressons davantage vers l'ouest. Et il y avait un pain dont vous vouliez parler.
Oui, en fait, on est donc dans ce voyage et on est en Palestine. Mais bon, il y a une partie de la Palestine qui aujourd'hui s'appelle Israël. Elle se retrouve sur notre route, en plein milieu du monde arabe. Alors, effectivement, comme on est dans le monde arabe, on pourrait se demander s'il faut en parler. Mais oui, Israël, il y a 2 millions de Palestiniens de nationalité israélienne qui sont donc arabes, bien entendu, et aussi beaucoup de juifs arabes en Israël. Mais surtout, comme notre émission porte sur la nourriture et sur le pain, la cuisine que mangent les Israéliens est essentiellement arabe, c'est la cuisine qu'ils ont trouvée en arrivant dans ce pays. Parce que finalement, si on voulait parler de pain particulier dans la région, on se retrouve dans les mêmes pains, mais avec des appellations un petit peu différentes. Étonnamment, le khebz, qui est le pain arabe, le sens même du pain arabe, se transforme en pita, nom grec, comme si on ne voulait pas, en même temps qu'on prenait le pain, prendre le nom arabe. Il y a un autre pain dont on pourrait parler en cherchant bien, en trouvant des pains spécifiques. On ne trouverait pas des pains qui sont le lien entre un peuple et un terroir, mais plutôt des pains liés à une religion. C'est notamment le challah qui est lié à la religion juive, puisque c'est un pain qu'on fait pour le Shabbat, et qu'on pratique pour le Shabbat un peu à la manière d'une brioche. Mais ce que l'on voit là-dedans, c'est véritablement qu'il y a ce lien très important entre les peuples qui s'installent sur des terres depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, et qui ont un pain qui est issu de cette terre. En avançant un petit peu plus loin, on arrive où ? On arrive en Afrique du Nord, on arrive en Égypte. Et en Égypte, eux, ils vont avoir ce type de pain. Ce type de pain va s'appeler le shamsi. Shamsi, ça vient, là encore les mots, toujours les mots, c'est le soleil. C'est un pain du soleil, et un pain extraordinairement du soleil, parce qu'on utilise la richesse du terroir pour faire son pain. Et la richesse du terroir, c'est quoi? C'est qu'on met le pain, on prépare la pâte à pain, et on la met à lever au soleil. Où vous avez déjà vu quelque chose de plus beau que de poser un pain au soleil, pour que le soleil lui-même vous fasse lever le pain et vous préparez le pain.
D'ailleurs, il est étonnant ce pain, on dirait un coussin, il est tout gonflé, tout ventru.
Tout à fait, puisqu'il a vraiment levé d'une manière assez incroyable. En fait, on est en train d'utiliser les éléments principaux du terroir que vous avez, c'est-à-dire le soleil, en plus bien entendu de l'eau et de la farine que l'on met dans ce merveilleux pain, effectivement. Et là, on est en Égypte. Si on avance un petit peu plus loin, on va traverser la Libye, on arrive en Tunisie. Et là, à partir de là, en fait, le pain commence à avoir une importance un petit peu moindre. Il y a du pain très intéressant, puisqu'on arrive véritablement sur les pains de semoule à partir, on va dire, de la Tunisie et surtout de l'Algérie et du Maroc. Mais le pain est moins important. Le haïch, c'est-à-dire la vie, ce n'est plus le pain. C'est la semoule en elle-même, et certaines parties de la semoule, étonnamment, c'est la semoule qu'on connaît le moins, nous autres, en Europe et en dehors de cette partie-là du monde. C'est les gros grains de semoule qui sont cuisinés et qui s'appellent souvent le haïch dans la région. Donc là, on est à nouveau, c'est la même manière de faire du pain, mais elle est faite à base de semoule, petit à petit, en passant par la Tunisie, où on fait, par exemple, des feuilles de briques en guise de pain.
Vous souhaitez la bienvenue en fait à Farah Kerram qui nous rejoint. Bonjour Farah, bienvenue.
Bonjour Clémence, bonjour Karim.
Donc vous êtes journaliste en France à la télévision française, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes passionnée des cultures alimentaires et du Maghreb et vous postez d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux des photos de gâteaux, de pain et tout dernièrement d'ailleurs un pain plat, donc une kessra, qui a la particularité d'être faite à la semoule, mais à la semoule d'orge. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce pain dont je ne sais pas prononcer le nom?
On l'appelle le lagroum temzin, donc littéralement, c'est une galette à la semoule d'orge en tamazir, qui est la langue des berbères de Kabylie, entre autres. Et c'est une galette qui est non levée, donc à base de cette semoule, d'huile d'olive, de sel et d'eau. Comme Karim l'expliquait très bien, il y a toute une variété de galettes qu'on fait à la base de semoule de blé dur notamment. Mais celle-ci, elle a cette spécificité d'être à base d'orge, qui est cette céréale à épis, dont les grains ont une couleur un peu de blanc laiteux. En mélangeant tout simplement ces ingrédients, on obtient une galette fine de à peu près 1 ou 2 cm, qui est absolument succulente et qui est très singulière.
Et c'est un pain militant, je crois, cet agroum temzin.
Oui, tout à fait. En fait, l'orge est très répandue en Algérie. C'est d'ailleurs la seconde céréale qui est cultivée là-bas, après le blé dur. On le trouve depuis l'Antiquité. Et en fait, si beaucoup de foyers algériens l'utilisent, notamment pour des plats donc de couscous et de pain, surtout dans les régions montagnardes, donc la Kabylie ou les Aurès, qui sont situées dans le nord-est algérien, finalement, le pain qui est consommé là-bas, c'est un peu triste à dire, mais c'est le pain blanc. C'est cette baguette de consommation courante, donc cette baguette française qui est directement importée de l'époque coloniale. Enfin, c'est dommage parce que l'orge a pour le coup beaucoup de vertus gustatives. Il est aussi très riche en fibres, en minéraux, en vitamines, etc. Et cette baguette blanche, pour le coup, elle, est remplie d'additifs chimiques qui sont nocifs pour la santé. Et elle nécessite par ailleurs d'importants moyens matériels et techniques pour les agriculteurs algériens. Bon, là, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que les Algériens sont quand même très attachés à cette baguette blanche, notamment pour son prix qui est vraiment très bas. Et on peut noter qu'il y a eu une campagne de sensibilisation, je dirais, à partir de 2012 dans le pays, qui a été initiée par le Comité national des boulangers pour que la population, en fait, se tourne plus vers ce qu'on appelle les pain traditionnel, donc comme par exemple cette galette kabyle dont on vient de parler. Donc on parle là de pain avec une fermentation plus lente, avec des blés anciens ou des variétés de céréales anciennes. Et c'est vrai que ces pains-là restent quand même majoritairement rares et plus coûteux. Donc choisir de manger un pain comme l'agroum temzin, ça a quelque chose de politique parce que à la fois on est sur un retour aux pains traditionnels qui ont été vraiment effacés de par notamment la colonisation et par la chimie comme on le sait, le développement, mais aussi parce que ça permet de, enfin il y a une protection du patrimoine culturel algérien, mais aussi la question de la santé du consommateur finalement.
Fondamental ce pain, Karim Haïdar.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'allais demander pour le coup, parce que ce même pain se fait pas de manière levée avant aussi.
Eh ben, on peut choisir d'utiliser de la levure ou non. Dans le cas de l'orge, en fait, on n'utilise pas de levure pour pas que ça détériore un peu ses vertus, mais comme l'orge, vous devez savoir, a ce côté très friable, on peut ajouter de la farine de blé en complément. On préférera une farine semi-complète ou complète et pas blanche pour justement toujours ne pas détériorer ses vertus. Et concernant la kstra classique, donc à base de semoule de blé, on peut la faire avec levure pour qu'elle soit plus digeste, mais enfin moi je la fais sans levure et j'en suis ravie.
En levure, elle change de nom ou elle s'appelle toujours kstra?
Kassra toujours.
Farah Keram, votre mère en fait fréquemment du pain, je crois.
Oui, tout à fait. Et ce que j'adore particulièrement dans la kassra, c'est que on peut la doser d'huile d'olive. Typiquement, elle la fait avec beaucoup d'huile d'olive dès qu'elle va accompagner une chorba afrique ou la hmis, qui est un plat à base de poivrons, de piment et de tomates. Mais elle va la faire moins dosée en huile d'olive quand ça va être la kassra du petit déjeuner, pour être quand même un peu raisonnable et avoir pas ce côté sucré-salé. C'est très simple à faire, ça nécessite pas de repos. On peut la faire très spontanément et ça prend montre en main un quart d'heure.
Et on la fait cuire dans un récipient en particulier, dans une poêle, dans un four?
Alors le mieux, c'est de la cuire dans un tagine bien chaud. C'est un plat rond qui passe complètement sur une gazinière ou sur une plaque qui est généralement assez grand et qui est plat, mais on peut aussi tout à fait adapter ses recettes à une poêle. Il suffit qu'elle soit bien chaude.
Merci beaucoup Farah. Le pain, en tout cas Karim Haïdar, il s'invite dans le livre de recettes que la cuisinière Sonia Esgulian cococte pour les 40 ans de handicap international. L'anniversaire de l'association sera célébré au mois de novembre prochain et toute l'année 2022. Et bien sûr, il s'agit là encore bien plus que d'un livre de recettes.
C'est beaucoup plus qu'un livre de cuisine en fait. C'est un livre d'échange, de partage avec des cuisinières du monde entier. En fait, pour les 40 ans de handicap international, j'ai eu l'idée de recueillir des recettes de cuisine qui viennent du Cambodge, de Sierra Leone, du Sénégal, du Népal, enfin de plein d'endroits. Et à travers des vidéos et puis des reportages photos, je découvre les recettes et je réinterprète en fait à ma façon, en simplifiant les ingrédients parce que souvent on n'a pas tous les ingrédients et en mettant en lumière la petite chose, l'astuce ou l'association de saveurs que j'ai appris. Ce sont des bénéficiaires de handicap international qui soit sont handicapés, soit dans des situations de pauvreté compliquées et que Handicap International a pu aider pour par exemple mettre en place un commerce de couture en Afghanistan. Je pense notamment à Marie qui en Afghanistan m'a offert une recette de ravioles de cébette, soit s'occupe de leur enfant ou d'un proche handicapé.
Sonia, on a parlé de pain tout au long de cette émission. Est-ce qu'il y a un pain parmi les recettes que vous avez découvertes ?
Oui, il y a un pain marocain extraordinaire que j'aime beaucoup qui s'appelle le pain tafelnout. Alors tafelnout, c'est le nom du four en fait dans lequel ce pain est cuit. C'est Aïcha qui m'a appris à faire ce pain. On réalise une pâte à pain avec de la farine et de la semoule de blé dur et de la levure évidemment. On mélange le tout, on laisse lever et puis ensuite ce four a la particularité en fait d'avoir un lit de pierre chaude et on va étaler des galettes sur le plan de travail et les déposer ensuite sur ce lit de pierre très très chaude. Et en fait ce pain, il va être tout ondulé parce qu'il va prendre la forme des pierres, c'est une galette, c'est très très bon. On peut le manger tel quel avec un petit peu d'huile parfumée, moi j'aime bien à la sauge par exemple, ou alors avec un petit peu de hamlou, cette préparation qui est réalisée avec des amandes broyées et un petit peu d'huile d'argan, ou alors simplement avec un tagine ou d'autres préparations.
Sonia Esgulian, pour ce livre de recettes, une campagne de financement participatif est en cours pour soutenir l'ONG et ce projet. C'est sur KissKissBankBank que ça se passe. Je vous glisserai bien sûr l'adresse pour soutenir cette campagne et ce projet sur la page internet de l'émission. Nous avons parlé de pain et de pain, et là je me demande quel ingrédient et quel ustensile vous avez pu choisir, Karim Aïda.
L'eau, tout simplement, l'eau qui est nécessaire à la fois à la farine, à la semoule, à tout. Alors l'ingrédient, bien sûr, entre la pâte à pain et le pain, il y a le feu, tout simplement, la cuisson. Il faut l'alliance de l'eau et du feu pour faire du pain.
Merci beaucoup Karim Aïda pour ce premier voyage dans les cuisines du monde arabe. Le prochain, nous verrons, pourquoi pas le thé.
Pourquoi pas, ça pourquoi peut être pas. Sympathique.
Nous verrons quel voyage en tout cas aimeriez-vous entreprendre. N'hésitez pas à nous le dire et à participer en nous laissant un message audio ou vidéo sur les réseaux sociaux du Goût du Monde. Karim, Aïdar, Les Mots, Le Ciel, votre boutique à manger se trouve à Paris dans le 15e arrondissement, au 81 rue Olivier de Serres. On peut commander et se régaler, vous lire aussi L'encre de sèche, publiée aux éditions de L'Épure, je crois que c'est votre petit dernier, avec Zeyna Abirached. Cécile Benissi a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci à elle, à vous de votre fidélité, à notre rendez-vous du samedi. Faites comme nous, quand vous aimez, abonnez-vous au podcast de l'émission pour savourer le jour comme la nuit. Belle semaine à tous.
Tout à l'heure sur